Vous écoutez
RMC.
Tous les chemins mènent à Rome, dit le vieil adage français. Non, tous les chemins mènent à Paris.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Tous les chemins mènent à Paris pour l'arrivée du Tour de France, évidemment, dans deux semaines. Mais on n'y est pas encore. On va y aller dans un instant sur la route du Tour, retrouver toute l'équipe de l'intégrale. Mais pour l'heure, on est avec Sarah Pitkowski, avec Julien Beneteau, avec Pascal Duprat. Retrouver la première heure des grandes gueules du sport, déjà en podcast. On s'est demandé s'il fallait craindre l'Espagne, qui sera l'adversaire des Bleus en demi-finale mardi de la Coupe du Monde. Ce sera à 21h à Dallas. Tiens, j'en profite pour lancer un nouvel appel à la libération de Christophe Glaise, journaliste sportif français injustement détenu en Algérie depuis juin 2025 et condamné à 7 ans de prison simplement pour avoir exercé son travail de journalisme pour le magazine SoFoot. On pense fort à toi, Christophe, ce matin, et à tes proches, et voilà, on espère que tu suis la Coupe du Monde et que tu t'enthousiasmes et que cette histoire va bientôt s'arrêter, évidemment. On est avec toutes les grandes gueules. Dans un instant, on va parler de Wimbledon. Tiens, on va y retourner voir Eric Salio sur le gazon parce que Djoko s'est fait sortir hier au grand dam de son plus grand fan, Pascal Duprat.
Tu sais que... Non, t'aurais pu dire que Sinner a battu Djokovic.
Oui, mais bon, on parlera de Sinner demain, Sarah. Oui, non, mais tu sais que Pascal, c'est un ultra Djoko. Hein.
Oui, il envers et contre tout, il voit le 25e, lui.
C'est un match de Djoko, il enlève son t-shirt.
Ça y est, le débat commence.
On a beau lui donner avec Bennett tous les arguments, c'est un doux rêveur.
Je vais encore les écouter.
La quête du 25e Grand Chelem est-elle encore réaliste pour Djoko? C'est la question qu'on va se poser. On va l'écouter, d'ailleurs. Tiens, un point sur le rugby avec la première mi-temps entre le 15 de France et l'Australie à Brisbane. Je sens que les Wallabies sont en train de revenir, Clément Brossard.
Il revient dans la course, en effet, l'essai de McWright à l'instant. Toute puissance, 27 minutes de jeu. Il profite de la supériorité numérique puisque Manny Meafu a pris carton jaune pour un plaquage haut sur Valentini. Bunker, hein, ça peut se transformer en rouge ce carton, mais pour le moment, eh bien, on en reste à 12-12 transformations à venir pour les Australiens.
Et la possibilité pour les Wallabies de passer devant, effectivement, en cas de transformation. Les Bleus, on le rappelle, avec Jalibert à l'arrière et avec Ntamack à l'ouverture. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, remportez un bon cadeau de 50 euros à valoir sur Agfa Photoprint pour imprimer vos meilleurs souvenirs de vacances sur un album photo ou un poster. Vous pouvez faire par exemple un poster grandeur nature de Fred Weiss. Alors ça va vous prendre tout le mur, mais c'est quelque chose
oui,
qui
non,
est possible.
Oui, non, c'est sûr qu'en 30-45, ça rentre pas.
C'est compliqué, effectivement. Plus simple avec un poster de Sarah Pitkowski et Pascal Duprat.
Oui.
Ça va pas. Je dis ça, c'est juste des faits. Hein. Il n'y a aucun commentaire, aucun jugement. Pour remporter
ça n'appelle aucune réponse.
Rien du tout. Comme si moi, j'étais un géant, tu sais. Pour remporter votre bon cadeau, Agfa Photo Print, appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Allez, les amis, sur le ring. Une semaine après le départ du Tour, on était à Barcelone la semaine dernière et on le craignait. Tadej Pogacar a déjà sommé la concurrence. Vous l'avez vécu en direct sur RMC.
RMC, le ring des GG.
Tadej Pogacar qui a lâché Isaac Del Toro. C'était trop dur pour le Mexicain. Tadej Pogacar désormais tout seul en tête à 40 km de l'arrivée. Tadej Pogacar qui est en train de frapper un très très grand coup.
Allumez vos chronos. Il franchit à l'instant même le col du Tourmalet. Top pour Pogacar.
Il se lève, il lève les bras, il s'incline, il salue la foule. Tadej Pogacar qui franchit la ligne. Victoire de Tadej Pogacar sur cette 6e étape du Tour de France. La victoire d'étape, le maillot jaune. C'est dur pour Jonas Vingegaard. Oh, la ligne lui paraît vraiment très très loin. Il grimace le Danois. Plus de 2 minutes 30 d'écart avec Tadej Pogacar. Il souffle. Et le sprint pour la 3e place, évidemment, c'est Remco Evenepoel qui a lancé ce sprint, bien suivi par Isaac Del Toro derrière. Ils ont fait le trou, les deux hommes, parce que Juan Ayuso Polsexas n'arrive pas à suivre. C'est Isaac Del Toro qui est parti. Isaac Del Toro qui va remporter cette 3e place devant Remco Evenepoel, devant Polsexas, devant Florian Lipovits.
Un Pogacar lunaire sur une autre planète, ça écœurait tout le monde sur les pentes du Tourmalet, même nos commentateurs. Vous l'avez entendu avant-hier, plus que jamais en route, Poggy, bah là sur l'autoroute même, hein, pour égaler le record de 5 victoires finales sur le Tour. Impérial, dévastateur. Dans les Pyrénées, il compte déjà 2 minutes 38 d'avance sur Vingegaard, son supposé rival numéro 1, s'il y en a vraiment un. 7 coureurs se tiennent en 20 secondes pour le podium, dont le français Polsexas. Aujourd'hui, 8e étape pour sprinter entre Périgueux et Bergerac, après la victoire de Merlire hier à Bordeaux, départ à 13h25 pour la journée. Les GG, je vous pose cette question, est-ce que la course au podium va sauver le Tour? J'ai un oui, Sarah. Et deux non, Bennett et Pascal. Ouais, d'accord, vous les maintenez, hein, vos réponses.
Bien sûr. Oui.
Sur le compte. Et, bien sûr, moi j'ai, attendez, j'ai des convictions. Je suis désolé.
Je suis pas une girouette.
On embrasse Denis Charvet qui nous écoute. Sur le compte X des grandes gueules du sport, vous nous dites non, la course au podium ne va pas sauver le tour à 57%.
Le peuple est avec nous, Pascal.
Le peuple des grandes gueules du sport. Ouais.
Sarah, prends les rames
des Norvégiens.
Ouais, vas-y.
Oui, mais
voilà,
tu sais.
Viking, Sarah.
Pardon ?
T'es un côté viking.
J'ai forcément. Plutôt okay. Irlandais que viking. Okay, enfin, j'accepte. Bon.
Avant de débattre, elle vous fait vivre le tour sur la moto RMC. Maria Z est avec nous.
Je suis sûre qu'elle pense comme moi. Salut, Maria.
Maria, elle va vendre son tour. Là. Elle va pas faire 2000 bornes à moto pour rien.
Sous 50 degrés.
Ça coûte l'essence. Hein.
Suspense.
C'est vrai que les étapes de sprint, je vais pas vous mentir, c'est un peu dur. Sous 38 degrés aujourd'hui, c'est un peu la
C'est pas le meilleur moment. Bon, chez les adversaire Maria, on se concentre déjà sur les places d'honneur derrière Poggi.
Oui, bah déjà pour vous donner une petite idée un peu de la réaction dans le peloton, écoutez celle de Lenny Martinez qui est actuel 8e au général, donc pas mauvais, qui a très bien couru sur la grosse étape de jeudi quand on lui apprend l'écart entre les deux premiers.
Ils arrivent les deux ensemble, Tadej et Jonas. Il n'avait plus de limite de retard, Jonas. Ah ouais, ouais. Ah ok. oui, très fort. C'était prévu et il est très fort, donc moi je... Parfois, j'attends juste qu'il attaque pour que je me cale à mon rythme. Donc, c'est comme ça.
Voilà, globalement, ça, c'est la mentalité de tout le peloton. Pogacar est un classement à part. Et même si le Slovène déteste qu'on lui demande si le tour est déjà plié, un grand ami des grandes gueules du sport, évidemment, Marc Madiot, va répondre à sa place.
Il a plié le tour, sauf s'il tombe. Mais ouais, voilà. C'est là où le temps va être long pour lui, quoi, en fait. Parce que l'essentiel ayant été accompli, c'est-à-dire larguer tout le monde, on se focalise sur autre chose. Donc, c'est le temps qui va lui paraître long.
Les seuls qui pensent encore pouvoir rivaliser, ce sont évidemment les Visma Lisebike de Jonas Vingegaard qui compte 2 minutes 42 de retard sur le Slovène. Son directeur sportif Arthur Van Dongen veut encore y croire.
Nous n'allons pas abandonner. Pogacar était plus fort, mais Jonas a montré un très gros niveau et il a tout donné. Le tour est encore long et la dernière semaine est très difficile, donc il reste des possibilités.
Voilà, des possibilités pour le maillot jaune, ça va quand même être compliqué, mais surtout que le Danois se méfie parce qu'on n'est pas à l'abri que Tadej Pogacar augmente encore un peu plus son avance mardi à l'arrivée au Lioran et qu'ensuite il se donne pour mission d'aider son coéquipier Isaac Del Toro à terminer deuxième parce que le Mexicain n'a que 45 secondes de retard sur Jonas Vingegaard.
Ah, ça va être l'éclate. Merci beaucoup, Maria, d'avoir été
J'ai plus rien à dire parce que tous mes arguments, Maria l'a dit dans la dernière phrase. Ouais, c'est exactement ce qui va se passer.
Bah, tu vas quand même rester avec nous parce que tu es grassement payé aujourd'hui. Tout comme l'équipe de
une nouvelle là-dessus.
L'équipe de l'intégral Tour. Nous rejoint Christophe Cessuela. Salut Chris.
Ah, il n'arrive toujours pas à lui mettre au micro.
Il est encore sur le tour.
De tours avec Cyril Guimard. Du coup, il a eu la même maladie. Il n'arrive pas à appuyer sur le bouton.
On la retente. 5-4-3-2-1. Christophe Cessieux sur la route du tour. Salut Christophe.
Bonjour à tous. C'est Jérôme Pinault qui a appuyé sur le bouton. Il est plus fort que moi en technique.
Ne vous inquiétez pas. C'est toujours la faute des autres. C'est incroyable.
Non, justement, là, il a dit que Jérôme l'avait aidé.
Énorme, on a du matériel hyper moderne. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Moi, avant, j'avais un téléphone. J'ai démonté mon téléphone et je faisais de la radio. Mais maintenant, c'est trop compliqué.
Jérôme Pinault est là, salut Jérôme.
Salut les copains.
Salut Jérôme.
Bon les gars, je vais pas vous cacher, j'ai plein de messages sur WhatsApp où effectivement les gens sont assommés par ce qu'a fait Pogacar cette semaine. Évidemment, on se pose la question ce matin, est-ce que la course au podium va sauver le tour, Christophe, t'en dis quoi ? Toi qui commentes tous les après-midi et qui va quand même devoir nous vendre le produit.
mais bien sûr, enfin, j'y crois vraiment. Mais la semaine dernière, la question c'était est-ce le tour le plus excitant de l'histoire ? Rappelle-toi la question que tu as posée la semaine dernière. Et tout le monde se disait oui, ça va être génial. Et moi je disais oui mais parce que je savais que Pogacar allait éclater la concurrence. Tout le monde le savait, c'était évident. Vingegaard il sort d'un Giro, Vingegaard il est largué par rapport à Pogacar. Donc la lutte pour le classement général, la lutte pour le maillot jaune, on savait avant le départ qu'elle ferait pchit très rapidement. Mais il y a d'autres, évidemment c'est un Tour de France. et les Tours de France ont souvent été marqués dans l'histoire par une domination sans partage d'un garçon. Ça a été le cas de Merckx, ça a été le cas d'Indurain, ça a été le cas de Froome.
Armstrong.
Pendant des années, ça a été comme ça. Les rares années où il y a eu un vrai suspense, rappelez-vous, peut-être 2019 avec Thibaut Pinot qui est peut-être en passe de remporter le Tour, et finalement c'est Egan Bernal qui le remporte. Il y a eu comme ça, de temps en temps, des cas d'école avec une vraie concurrence et un vrai suspense jusqu'à la fin, mais la plupart du temps, c'est comme ça le Tour de France. Et c'est pas pour ça qu'au bout d'une semaine, on va s'emmerder. Non, je suis désolé, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, et déjà la semaine dernière, c'est la lutte pour le maillot blanc. Le meilleur jeune, celui qui va succéder à Pogacar dans 2 ou 3 ans. Mmh. Del Toro, Ayuso, Sexas, ils se tiennent en quelques secondes. Moi, c'est ce qui m'intéresse parce que je vois l'avenir. Bah, vous restez sur vos arrière-gardes, évidemment.
Pour une fois que t'es
tourné vers l'avenir.
Comme t'es jeune, c'est pour ça que tu vois l'avenir.
Bah, exactement. Mais tu sais, il faut rester jeune dans sa tête. Faut pas être un vieux à 35 ans comme tu peux l'être. Mais moi, je vois l'avenir avec. C'est la mentalité qui est un peu vieille, mais c'est vrai que physiquement, t'es pas mal.
Bon, Bennett, avant d'écouter Jérôme, toi,
je vais profiter que Jérôme soit là. Je vais poser des questions. Moi, je dis que je suis d'accord avec Christophe sur son analyse de début du tour, où je m'attendais pas du tout à une rivalité pour le général. Je pense que Pogacar, il est trop fort et je n'en veux pas d'être trop fort. Il a plus de talent que les autres, il travaille mieux que les autres, il a une meilleure équipe que les autres. Je veux y croire. Je ne lui en veux pas de dominer. C'est comme ça, il le fait.
Non.
Il part à 45 km, il fait comme quand il est en classique. On sait exactement. J'ai regardé moi l'étape du Tourmalet. Tout le monde disait qu'il va attaquer à 5 km du sommet du Tourmalet, à la sortie du tunnel où il y a un truc de paravalanche, etc. C'est Del Toro qui a accéléré là et ils ont écrémé tout le monde. Il est plus fort, c'est comme ça. Bravo à lui. Est-ce que ça va m'intéresser? Non, moins. C'est comme la Ligue 1. Est-ce que quand le PSG a 15 points d'avance, est-ce que je m'intéresse au podium? Oui, quand il y a un peu l'OM, etc. Mais je regarde beaucoup moins. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est pas que ça me dérange, c'est que ça m'interpelle. C'est à chaque fois, et Christophe l'a rappelé, il y a des mecs qui sont dominants dans des équipes qui sont dominantes.
Écrasantes.
Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors, soit ça donne une force incroyable à certains coureurs de faire partie d'une équipe où il y a un mec dominant comme ça.
Là, tu parles de l'équipe UAE, ils étaient 4
dans les autres veulent pas l'attaquer parce que cette équipe est trop forte.
Non, mais moi, je n'arrive pas à comprendre les mecs, les équipiers qui soient aussi forts par rapport aux autres équipes. Tu prenais la Sky à l'époque de Froome, à l'époque de Geraint Thomas, à l'époque de... T'avais les équipiers, ils essivaient les meilleurs des autres équipes. Tu prenais la US Postal, on n'en parle même pas. Mmh. Tu prenais la Lise Bike, à un moment donné, Van Aert, il faisait la vallée, il faisait le début des cols en tête, il prenait tout le vent. Il y avait des meilleurs grimpeurs des autres équipes qui lâchaient. Là, McNulty...
Coéquipier de
Nispoli, de Velen, etc. Mais McNulty, est-ce que tu le mets leader chez la FDJ? Est-ce qu'il fait la même montée dans le Tourmalet que s'il est coéquipier de Pogacar? Ça, c'est incroyable. Non, mais c'est hallucinant.
Bennett est tellement sidéré par ce qui se passe, effectivement.
Mais c'est chaque année pareil.
Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme, ce que dit Bennett?
Je suis d'accord avec Bennett, sauf que j'ai des réponses. Oui, McNulty dans une équipe autre que celle du AE,
il est leader.
Il est sur le tour en tant que leader pour faire un classement général ou pour aller claquer des étapes de montagne. Del Toro est dans une autre équipe, il gagnera peut-être le tour un jour. Sepp Kuss, il est plus qu'il était, mais dans d'autres équipes, il serait encore leader. Adam Yates, dans une autre équipe, il serait leader. Et tous ces garçons-là mis dans la même équipe, ça fait un train d'enfer. C'est pour ça aussi qu'il faut réfléchir à des solutions pour limiter la puissance des équipes. Maintenant, pour en revenir à la question principale, est-ce que le podium va sauver, la course au podium va sauver le Tour de France. Ça veut dire quoi, sauver le Tour de France? On l'a dit il y a 2 jours, si on est sûr que Pogacar domine, on vient pas au Tour, fallait pas venir.
Bah, bien
sûr. Parce qu'on sait depuis le début, le Slovène domine tout. On se demande Combien de temps va pouvoir tenir dans sa roue le deuxième? C'est plus ça qu'on se pose comme question. Et d'ailleurs, à Liège-Bastogne-Liège, en haut de la Redoute, on était tous quasiment sur la ligne d'arrivée, très contents que Paul Sexas n'ait pas pété dans une côte à 45 km d'arrivée.
Et Jérôme, tu crois encore qu'on en est là. Dans le sujet de Maria, là, l'équipe Visma Liselbike, il a l'air de dire on n'a pas abandonné, quoi. On y croit encore pour le maillot jaune.
Non, parce c'est que c'est faux. C'est méthode Coué, c'est se convaincre qu'on est là pour autre chose. Ces garçons-là ont déjà gagné. Donc effectivement, pour eux, se battre pour une deuxième place, c'est délicat, c'est difficile. Et on ne peut pas l'annoncer. Il y a des sponsors à qui on a promis la victoire sur le tour pour qu'ils signent. Maintenant, ils ont signé, donc on fera deux ou on fera trois. Il y a Bradley Wiggins qui en parle ce matin, qui évoque même le fait que Jonas a paru en très grande difficulté. Et Bradley dit je ne suis même pas sûr qu'il va finir le tour. Parce qu'il a fini et effondré. C'est vrai que pour un coureur qui a gagné le tour, se faire ridiculiser comme il l'a fait il y a deux jours, c'est difficile de finir. Par contre, pour tous les autres, ça va être une belle course. Il y a deux populations sur le Tour de France, les copains. Il y a la population grand public qui, elle, va plus trop s'intéresser parce que Tadej Pogacar a écrasé le Tour de France et on est à peu près sûr qu'il va gagner. Donc ces gens-là vont plutôt aller à la plage et pas regarder l'étape, ça c'est sûr. En revanche, tous les spécialistes, les amoureux du vélo, on va trouver une autre cible. On va se régaler avec les étapes, on va se régaler avec les étapes accidentées et puis on va être derrière notre polo parce que même Chris qui est là en face de moi, on est tous à fond pour le podium, on est tous à fond pour le maillot blanc parce qu'on a Paul.
Donc tu penses que ce tour peut encore être sauvé en tant que spécialiste justement, Pascal.
En fait, je suis exactement sur la même ligne que Bennett. Moi, je n'en veux pas. J'en veux pas à son équipe. Pogacar est supérieur. Mais cela dit, même si Christophe, qui est un compteur extraordinaire, il te fait avaler tout ce que tu ne crois pas. Tous les Tours de France, c'est toujours pareil. Je ne crois pas. Je regarde depuis que je suis gamin. Et à la troisième étape, que ça soit filmé, c'est quand même pas souvent. Ok. Donc moi je m'attendais à la troisième semaine, j'ai vu le parcours, je me suis dit tiens, 15 jours où ils vont se marquer. La première étape, ça m'a mis l'eau à la bouche quand j'ai vu que le contre-la-montre par équipe, Vingegaard endosse le maillot jaune. Et déjà à la deuxième étape, il y a un petit truc là. Pour certains, c'est un geste chevaleresque de Pogacar de laisser gagner son coéquipier. Pour d'autres, c'est un peu méprisant ce geste-là. Bon, enfin bref, troisième étape, bing, patapac. Il bat le record de la montée de 2 minutes 30 en 17 kilomètres. Le dernier détenteur du record, c'était Vingegaard en 2023. Il en finit plus d'être bon, il en finit plus d'être meilleur, il en finit plus d'être écrasé. Et vous savez ce que je fais, moi? Quand on début juillet, je me disais, à partir des quarts de finale de la Coupe du Monde, je vais avoir le Tour de France où je vais pas en louper une miette, puis Wimbledon où
regarde Mourova Noskova cet après-midi plutôt que l'étape.
Heureusement, j'ai mon petit-fils qui est là pendant 15 jours, je vais m'occuper de mon petit-fils. Au lieu de regarder tout.
Il aura bien sa chance.
Tu vas
voir
ton petit-fils en écoutant l'intégral tour.
C'est votre côté méprisant, les Hauts-Savoyards.
Les arabesques de mes collègues, oui, je vais les écouter.
C'est le côté méprisant des Hauts-Savoyards. Qui habitent dans les Alpes. C'est mépriser le Tourmalet,
mépriser
les Pyrénées.
Ah ouais, bon, Sarah.
C'est un amoureux déçu, Pascal. Rappelez-vous ce qu'il disait la semaine dernière. Il nous narguait en nous disant regardez le suspense, ça va être extraordinaire ce Tour de France. Puisque garde, je sens qu'il va faire tomber Pogacar.
Mon pauvre
Pascal, t'as vu ce qui s'est passé, c'est terrible. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi t'y croyais? Pourquoi tu croyais que Vingegaard allait
Parce que j'ai envie de me conter des histoires aussi, merde.
Il y a un petit bémol sur la montée du Tourmalet.
Moi, pourquoi le tour continue à m'intéresser et ça vient d'être dit, il y a un seul nom, hein. C'est que depuis le mois de février et son tour des Pays Basques, on me vend du Paul Sexas, on me raconte du Paul Sexas.
Il y a plusieurs Basques dans le pays, ou plusieurs pays dans les Basques.
Non, c'est quoi, Pays Basques? Le tour du Pays Basque. Oh voilà, ça va, c'est bon.
Ah, il ne rate rien, Bennett.
Non.
C'est ça qui va être énorme dans les jeux.
Je me suis préparée.
Toi, depuis des mois, c'est cette histoire qui t'intéresse, en fait.
Oui, on m'en compte des histoires et j'avais bien compris que effectivement jusqu'à ce qu'il valide définitivement sa présence sur le Tour de France, qu'il venait pour acquérir de l'expérience, et on avait bien compris que c'était pas lui qui allait jouer le premier rôle. En revanche, ces histoires de maillot, c'est ça qui m'intéresse, et peut-être, je sais pas, d'aller gagner, pourquoi pas, une victoire d'étape à un moment.
Parce que tu t'attendais à ça, en fait. De toute façon, t'es pas surprise.
Mais en tout cas, évidemment, l'histoire de Vingegaard, est-ce que on l'en a fait ici, est-ce que finalement son son état de forme permet de croire qu'il pourrait titiller Pogacar.
En fait,
on y a cru à un moment. On y a cru puisqu'il... Pardon ?
Il est très fort, en fait, Vingegaard.
Oui,
mais c'est le meilleur des autres, en fait.
Parce que on parle du record du Tourmalet là, qui a été battu. Mais Vingegaard ne prend que 30 secondes. Hein.
Ça a battu le record de Vingegaard.
Il y a 10 coureurs qui l'ont battu.
Il y avait des conditions favorables.
Il y avait beaucoup de vent. Moi, j'étais sur la moto, il y avait un fort vent de dos.
Jérôme était sur la moto, il a monté en 30 secondes.
Ils ont vent dans le dos, ils ont le moteur électrique.
En tout cas, l'histoire de Paul Sexas, je ne sais pas si ça sauve mon tour, mais en tout cas, ça garde un intérêt aujourd'hui d'aller éventuellement chercher un podium, d'aller valider son maillot blanc. Ça suffit à mon bonheur.
Et c'est important d'écouter aussi les suiveurs, nos auditeurs et auditrices. Jean-Pierre est avec nous au 32-16. Salut Jean-Pierre.
Salut JP.
Bonjour à tous.
Bon, Jean-Pierre, est-ce que la course au podium va sauver ton Tour de France ou il est déjà un peu gâché?
Écoutez, déjà, salut à tous. Je vous remercie de prendre mon appel. Je dirais que le temps, en regardant le Tour de France, me paraît long, très 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 long. En préambule, moi je tenais à féliciter les trois commentateurs TV qui arrivent à tenir en haleine les spectateurs.
Et t'imagines en radio sans les images, c'est encore mieux.
Des heures et des heures entières devant un spectacle qui est devenu, j'ai envie de dire, triste et insipide. En fait, hier par exemple, on a deux coureurs qu'on laisse partir, le peloton se met tout de suite sur toute la largeur de la route pour en laisser partir d'autres parce que tout le monde s'était mis d'accord. Donc on leur a laissé une minute pendant 150 km.
Bon, l'échappée du jour qui est repris par les sprinteurs, ça, Jean-Pierre, c'est un truc qui existe depuis des années aussi, hein, pour le coup.
Oui,
c'est
Jean-Pierre, va jouer au Scrabble. Ce sera mieux que de regarder la télé, de la radio. Va jouer au Scrabble ou va faire des pâtés de sable sur la plage. Ce sera beaucoup mieux pour toi.
Jean-Pierre, je quitte.
Non, mais c'est quoi sur les étapes de montagne? C'est des étapes de montagne sur la domination de Pogacar. Ça t'a donné moins envie de suivre la suite?
Tout à fait. En montagne, vous pouvez mettre le nombre de cols que vous voulez. Il se passe toujours la même chose. Historiquement, avant, vous aviez le train Armstrong. Maintenant, vous avez le train Pogacar. Tout ça grâce à un État, en fin de compte, pour ne pas le citer, l'UAE, qui recrute à coups de millions d'euros les meilleurs coulées.
Mais comme l'a fait Sky, Christophe l'a dit, comme l'a fait l'équipe Sky de France.
Est-ce que je peux poser une question à Jean-Pierre?
Ouais.
Alors moi, j'ai une question à te poser, Jean-Pierre. On sait qu'aujourd'hui, il y a des négociations autour de Paul Sexas. Et peut-être qu'un jour, Paul Sexas sera dans une de ses équipes. Est-ce que le jour où UAE fait un train, mais que le dernier élément de la fusée, c'est Sexas, il éclate tout le monde dans le Tourmalet, est-ce que t'éteins la télé? Est-ce que t'éteins la radio? Est-ce que le Tour de France te saoule si c'est Paul Sexas?
Je crois que ça sera pareil parce que l'intérêt de la course. Non, mais Jérôme, écoute-moi, on a vu ce qui s'est passé avec ton équipe et je trouve ça vraiment dommage. Je pense que toutes les autres petites équipes maintenant ne sont que des faire-valoir.
C'est le tour, Jean-Pierre. C'est le très haut niveau. Mon équipe était là pour faire de la figuration et essayer de prendre les miettes, mais ça, on le sait dès le début. On est dans notre
Jérôme,
rôle.
L'équipe de Vingegaard, c'est des peintres?
Une question.
Ils sont pas à la hauteur cette année.
Ils sont plus au même niveau.
Ils sont plus à la hauteur. Et tu l'as dit.
Mais ce sont quand même des coureurs. Van Aert
n'est pas là. Sepp Kuss est l'ombre de lui-même. Bjørgensen a pété au même endroit que quand Jérôme Puneau il faisait du vélo, il pétait dans le Tourmalet. Et donc il en manque. Paul Sexas aussi s'est retrouvé isolé. Cette équipe est plus forte. Oui, il y a une surdomination. Oui. Est-ce qu'il y a des problèmes dans cette équipe? J'en sais rien, les gars. Mais il y a un truc qui est sûr. C'est que eux, quand ils préparent un objectif, ils sont tous prêts. Et les autres, ils ont pété comme
Jérôme,
des popcorn.
C'est la même chose dans toutes les disciplines, les garçons. Regardez la domination exercée par le Paris Saint-Germain, qui achète effectivement, qui a un budget largement supérieur à tous les autres. Regardez la domination du Stade Toulousain, qui domine de la tête et des épaules le rugby français depuis des années.
Oui, mais
parce qu'il a du gros budget, parce qu'il achète
des compétitions hexagonales. Mais en Europe, Toulouse, ça leur arrive de perdre.
Résultat sur le ring des grandes gueules du sport. Vous dites, est-ce que la course au podium va sauver le Tour de France?
J'avais une question à poser, mais j'ai été censuré.
Non, à 56%. T'as une question que tu peux poser en une seconde?
Ouais, Jérôme, Chris, est-ce que vous pensez vraiment que Pogacar, il peut prendre très vite 5-6 minutes et faire jouer Del Toro sur le podium?
Oui, allez, vous dites oui.
Merci.
Voilà, c'est super.
Moi, je sais.
Mais c'est tout ce qu'on voulait. Ici, la parole est donnée à tout le monde. Hein,
bon courage, les gars.
Allez, on vous retrouve évidemment sur la route de l'Inter.
Bonne demi-finale, Bennett.
Bonne finale, non, je ne la regarde pas, je te dis.
Et bon pâté de sable, Pascal, avec ton petit-fils sur la plage.
Allez, je remercie Jean-Pierre de nous avoir appelé au 32-16. Clément Brossard pour 15 de France face aux Wallabies.
On est mené à la pause. 21-12, l'infériorité numérique qui nous a fait très, très mal. On a pris deux essais. blessé après le carton jaune contre Manimé Afou. Le doublé notamment pour le flanqueur Fraser McWright, le groupé pénétrant sur la gauche, qui a atomisé la défense française. Franchement, dans le jeu frontal, on est largement dominé. Ryan Lomergan derrière qui transforme 3 sur 3 pour le demi de mêlée. 21 à 12 donc pour les Wallabies face à l'équipe de France à la mi-temps.
À tout à l'heure pour la suite de la rencontre. On revient dans un instant pour parler de Wimbledon. Djokovic n'aura pas de 25e grand chelem battu par Sinner hier. Et puis on va reparler de l'équipe de France face à l'Espagne en demi-finale mardi en Coupe du Monde. À tout de suite sur RMC. 10h36, un point sur vos conditions de circulation avec vous, Lucas Pierre.
Et la circulation qui reste difficile dans le quart sud-est du pays, c'est le cas sur la 7 avec des ralentissements par intermittence entre Lyon et Orange. Du côté de l'Île-de-France, le trafic est toujours très chargé sur la 10 à l'approche du péage de Saint-Arnoult. C'est très ralenti aussi sur la 13 en direction de la Normandie. Enfin, en Indre-et-Loire, vous rencontrez des difficultés sur la 10 en direction de Bordeaux pour rejoindre Poitiers depuis Tours. Bonne journée à l'écoute de RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Où on suit en fil rouge le match du 15 de France à Brisbane face aux Wallabies qui mène 21-12 pour l'instant face aux Bleus dans ce match du tout nouveau championnat des Nations. On rappelle, les Bleus ont perdu face aux Blacks la semaine dernière. Dans un instant, hein, j'y crois pas spécial à l'équipe de France. On va se demander si Mbappé a déjà dépassé Zidane et Platini au Panthéon des Bleus. Alors là, certains vont nous dire oh, sacrilège, comment pouvez-vous dire ça? On va en débattre tous ensemble. Mais d'abord le tennis. Djokovic ne gagnera pas à nouveau Wimbledon cette année à 39 ans. Le Serbe balayé hier en 3-7, 6-4, 6-4, 6-4 en 2h20 par Sinner qui affrontera Zverev en finale demain. Djoko toujours en quête de son 25e Grand Chelem. Punchline après le match hier.
RMC, la punchline GG.
L'année dernière, j'ai atteint 4 demi-finales. Cette année, sur 3 tournois du Grand Chelem, j'ai atteint une finale et une demi-finale. Je pense que pour 99% des joueurs, ce serait un très bon résultat en Grand Chelem. Pour moi, c'est bien, mais pas suffisant, car j'ai la chance et la malchance d'être habitué à un niveau très élevé en termes de résultats et de performances. J'ai le sentiment que, quand je suis en bonne santé, je suis encore capable de jouer parmi les 5 meilleurs, encore capable de rivaliser au plus haut niveau. J'aime ça, j'aime cette vie. Je veux dire, le tennis m'a tout apporté dans la vie et m'a permis de devenir qui je suis. Voyons ce que l'avenir nous réserve.
Voyons ce que l'avenir nous réserve. Pour moi, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, nous dit Djokovic, effectivement, toujours tiraillé ses conflits intérieurs pour, entre ce qu'il aimerait et ce qu'il peut faire. Les GG, la quête du 25e Grand Chelem est-elle encore réaliste pour Djokovic? Oui ou non, Bennett?
J'ai l'impression que c'est... J'y crois pas, quoi. Ouais. J'y crois plus.
Sarah?
Bah oui, moi, ça fait un moment que je dis non.
Et là, et là encore.
Pourtant, alors, moi, non. Ouais. Moi, c'est la première fois que je commence à dire.
Non, moi, ça fait un an que je le dis et pourtant, ça a toujours été mon joueur préféré. Hein.
Pascal?
Ah, moi, j'y crois.
On vous attend.
Ah, Pascal, il a le mental. Oui, il est Pascal. Là, Pascal.
Pascal, il s'est.
Il s'accroche, il a les mousquetons.
Quand tu aimes jusqu'au bout.
Ouais.
J'aime beaucoup cette image de Pascal avec des piolets s'accrocher. On vous attend au 32-16 sur WhatsApp. Eric Salio est sur place à Wimbledon pour RMC. Salut Eric.
Good morning. Good morning everybody.
Ah, il est en voiture.
Oui, en tout cas, il est saturé. On va le retrouver.
Il est là.
T'es là, Eric, évidemment, tu participes au débat avec nous. Tu vas nous dire un petit peu sur place comment est-ce que tu ressens ça. Mais d'abord, tiens, un petit tour de table. Donc, Bennett, tu disais, c'est la première fois que j'y crois plus vraiment. Tu penses que c'était peut-être la dernière chance, là, de Djoko?
C'est pas que c'est large. C'est pas dans ce sens-là que je dis que j'y crois plus. C'est le match d'hier. Il prend 3-7 face à Sinner. Il l'a dit, j'ai une demi-seconde de retard. Exactement. Sur chaque coup.
Mais il l'a déjà fait, eu, Bennett.
En fait, Djokovic, aujourd'hui, alors que ça a été et que c'est un mélange de Pogacar, de Indurain, de Bernard Hinault et de Anquetil, mais aujourd'hui, c'est le Vingegaard de Alcaraz et Sinner.
Sacrée métaphore.
Et peut-être
c'est le meilleur des autres. C'est le meilleur des autres. Il l'a dit.
Il a fait dans 6 mois le de Zverev aussi. Hein.
Ouais, bien sûr. Il a fait finale à l'Open d'Australie l'année dernière. Il a fait les 4 demi de Grand Chelem.
Ouais.
C'est le meilleur des autres. Mais aujourd'hui, en Grand Chelem, il n'arrive pas à aller chercher Alcaraz ou Sinner.
Est-ce que c'est encore le meilleur des autres? C'est la question qu'on peut se poser.
Ah oui.
Mais quand on voit que Zverev est en finale, par exemple, maintenant, après avoir gagné son Roland Garros.
Non, je pense que
Sarah, toi, tu dis ça fait un petit moment que tu n'y crois plus trop.
Oui, ça fait un petit moment que j'y crois.
Pourtant, il est là quand même. Hein.
Mais oui, il est là. Mais le souci, c'est que c'est ce qui est devant, c'est pas ce qui est derrière.
Exactement.
C'est ce qui est devant, et depuis un moment, ce qui est devant, eh bien, il sur 5-7, ça me semble 1 sur 1 sur 5-7, ça me semble semble insurmontable, et sur 14 jours, ça me semble insurmontable. Voilà.
Là,
pour preuve, il se concentre que sur ces tournois-là. Alors, ce qui est frustrant pour lui et peut-être ce qui laisse à croire pour les gens qui l'observent et ceux qui sont à fond derrière, c'est que il a toujours le coup de raquette.
Ouais.
Il a toujours le coup d'œil.
Ah mais
il a toujours le mental. Mais le problème, c'est que le physique,
il jouera mieux au tennis tout le temps.
La demi-seconde fait qu'il y a un moment hier, il est obligé de tenter un truc.
Ouais.
Parce qu'il peut plus couvrir le
tennis.
Tennistiquement,
il sera toujours plus fort. C'est comme le permis de conduire, le tennis. Tu joues mieux à 40 ans qu'à 20 ans.
Mm.
Mais tu conduis mieux à 40 ans que quand tu viens de passer ton permis de conduire. Donc tennistiquement, il jouera mieux.
Par contre, tu veux nous parler que en métaphore, ça, Bennett, ou c'est juste pour être sûr?
Ouais.
Ah, parce que.
Mais je vais écouter Pascal.
Non, mais Pascal, avant d'écouter.
Non, moi, je vais être plus succinct.
Vas-y, Pascal.
En fait, Vingegaard, c'est un figurant, mais il en a quand même gagné 2 Tour de France. Donc je me dis que peut-être. Djoko, sur un malentendu. Il va falloir beaucoup de conditions.
Ah ben là, il a déjà les conditions.
Pour qu'il en remporte un 25e. Mais peut-être qu'il va y avoir des conjonctions de plusieurs facteurs, et notamment le fait qu'Alcaraz et que Sinner, à un moment donné, soient pas dans
le problème, il l'a eu à Roland.
Oui.
Et il n'a pas été.
Oui.
Il a pas saisi la chance à Roland.
Il l'a pas saisi. Mais tant qu'il est là,
oui,
j'ai envie d'y croire.
Et à l'Open d'Australie, souvenez-vous, il a aussi l'occasion, parce que notamment l'un de ses adversaires pendant le tournoi abandonne, il joue un peu moins de matchs, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que la physionomie du tournoi lui a permis d'aller loin, et ça lui a quand même pas permis de
remporter Alcaraz. Mais il a pas battu Alcaraz.
Eric, t'es sur place à Wimbledon, toi tu l'as vu depuis le début, t'étais à la conférence de presse hier, tu sens pas encore de résignation chez Djoko face à ces joueurs-là?
Hier, il a pris un petit coup sur la carafe, hein. Franchement, moi je l'ai jamais vu aussi sur le reculoir pendant les échanges. Il a abdiqué très vite. Il a jamais réussi à lire le service.
Incroyable hier, ça.
Il se crée une seule balle de break, rendez-vous compte.
Au premier set, il a gagné que 4 points sur le service de Sinner. C'est hallucinant.
Et il y a une réflexion. En conf, il y a eu un truc assez rigolo. C'est qu'un journaliste lui dit, mais quand même, vous êtes le meilleur retourneur du monde. Il dit, j'étais. Il parle déjà au passé, tu vois.
Ouais, mais c'est une première, ça?
La relance, sur sa qualité de retour, moi ça m'avait marqué quand il a joué Arthur Rinderknecht pendant le tournoi, certes qui sert très très bien, mais je veux dire Djokovic, des serveurs dans sa carrière, il en a joué et des très très gros, et je trouvais qu'effectivement sa qualité de retour, parce que le retour c'est le coup d'œil, que ça se perd pas, mais c'est aussi sa part des jambes,
vitesse de réaction.
C'est la réactivité au niveau des jambes, et ça il a 39 ans quoi,
sachant qu'il est là, peut-être en plus il était sur le tournoi qui lui correspond le plus
aujourd'hui. Oui, je pense.
Mais Eric, tu sens que il commence à parler un peu de lui au passé, il y a un petit changement de discours quand même. Il commence à y avoir un changement de discours.
Il dit qu'il a toujours la flamme, mais il révèle quand même que toute la préparation en amont,
c'est de plus en plus dur.
Ça le pèse, c'est beaucoup de souffrance pour son corps. Le match contre Gyasim aussi, l'a payé. 5h15 à 39 ans, même s'il a eu 2 jours de récup, il l'a payé. Mais surtout Sinner, il avait trop envie de prendre sa revanche sur ce qui s'était passé à Melbourne. Et Sinner, quand il joue comme ça, mais il est injouable. Enfin, moi, c'est
Sinner, il monte en puissance, hein, parce qu'au début du tournoi, il jouait pas bien du tout.
Oui, mais il l'a dit, il monte en puissance, il a fait aucun tournoi de préparation.
Lui aussi
était prêt à ce qu'il ait des premiers tours un peu K1, K1, parce qu'il avait des réglages à faire, n'ayant pas joué de tournoi ayant fait le choix de ne pas jouer de tournoi de préparation. Mais ce que. Peut-être ce qui est en train de traverser la tête de Djokovic, c'est jusqu'à présent, sur les grands chelems, il y avait des petits pépins physiques, il y avait des petits accros, et là on a quand même l'impression qu'il est arrivé préparation tellement optimale, c'est-à-dire que là il est au max de ce qu'il peut faire.
À part contre Tsitsipas, il a perdu un set au moins à chaque match,
et parce que c'est un énorme match face à Félix Auger-Aliassime, ce qui sort comme match, il faut aller le chercher, donc en fait là il joue un tournoi mais quasiment parfait pour lui,
et ça,
à l'âge où, et ça ne suffit pas. Donc je pense que là, le plafond, je pense qu'il est en train de le voir, et c'est compliqué, mais évidemment la conjoncture, il faudrait qu'il y ait Alcaraz et Sinner qui jouent pas un tournoi du Grand Chelem. Mais on avance, plus il va y avoir des joueurs qui
montent en puissance aussi. Hein, donc
il est le plus fort de ceux derrière. Mais ceux derrière, à un moment, ils vont monter.
C'est ça. Écoutez, on va voir si.
Eric, tout va bien. Oui, mais est-ce que ta valise de Wimbledon ressemble de plus en plus à celle de l'Open d'Australie maintenant, Eric? Tellement il fait chaud, il paraît là-bas.
Ah, c'est-à-dire.
Bah, c'est-à-dire que t'as qu'un short vert, quoi.
Il fait chaud, oui.
Non, mais t'as vu le gazon, cette année, ça a joué quand même, la chaleur et le fait que le gazon, j'ai trouvé qu'il était complètement grillé par rapport aux autres années, non?
Eh oui, pourtant, il l'arrose hein, tous les matins, ça, je peux te confirmer. Ah, ok, merci. Quand j'arrive, mais. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il est râpé, ben, ils ont changé les graines en 2002 et on voit le résultat maintenant. Il y a des bancs de terre en fond de course, c'est terrible. Mais justement, ça convient très bien à Sinner, parce que moi, j'ai l'impression de voir un skieur. C'est extraordinaire, le déplacement de Sinner, et on voit. Grâce à sa jeunesse de skieur, il se déplace incroyablement.
J'entends entre les lignes. Ce que nous dit Bennett, c'est que s'il fait de plus en plus chaud à Wimbledon, ce sera peut-être de plus en plus difficile pour Djoko sur les prochaines années. Et pourquoi pas. Et pour Sinner,
je crois qu'il n'y a pas besoin de la chaleur.
Si c'est un skieur sur le gazon quand il fait chaud, a priori, ça devrait aller. Eric, on te retrouve cet après-midi, évidemment, à 15h pour la finale 100% tchèque chez les dames et avant la finale demain entre Zverev et Sinner, dont on va reparler, évidemment, demain.
Demain,
matin.
On fait un débat de combien de temps sur la finale dames?
Selon ce qui se passe dans la finale, selon la qualité de la finale que l'on attend, évidemment,
c'est RMC.
Allez, les amis, dans un instant, on va parler de l'équipe de France face à l'Espagne mardi en demi-finale de la Coupe du Monde avec un Mbappé stratosphérique. Est-ce qu'il est déjà devant Platini et Zidane au Panthéon des Bleus? Parlez avec nous au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, on va parler des Bleus dans un instant, mais d'abord le 15 de France face aux Wallabies. Ça se passe à Brisbane, la deuxième mi-temps, Clément Brossard.
Où Maxime Lucu vient de réduire légèrement l'écart grâce à une pénalité qui vient de rentrer 21-15 pour les Australiens. On joue depuis 6 minutes dans cette seconde période, mais on est trop inconstant, on fait beaucoup trop de fautes et surtout on est battu par la puissance australienne. Va falloir changer de visage. Et à l'instant, on est en train d'emmener un train. C'est peut-être maintenant le moment de la révolte. 46 minutes, 21 pour l'Australie, 15 pour l'équipe de France.
On espère la révolte, évidemment. Allez, tout de suite, j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport.
Doué, faut batailler pour ce genre de ballon. Voilà qui est fait par Rabiot. Doué qui la récupère derrière, qui l'aiguille à Mbappé. Allez, Mbappé, la frappe. Ouais! Eh oui! Kylian Mbappé, après le pénalty raté, délivre l'équipe de France dans ce quart de finale de la Coupe du Monde.
J'y crois pas.
Alors on va lancer un pavé dans la mare, les amis, avant la demi-finale des Bleus mardi face à l'Espagne à 21h à Dallas. Je vous pose la question, oui ou non, est-ce que Kylian Mbappé a déjà dépassé Zidane et Platini au Panthéon des Bleus? Sarah Pitkowski.
Bah, je vais dire j'y crois.
Pascal. Pascal.
Oui.
Ah, t'y crois. Bennett.
Oui.
Ah oui, vous pensez tous. Alors ça anime.
En bleu. Hein.
Là, les auditeurs sont en folie. Hein, sur WhatsApp, je vais vous dire, je reçois plein de messages.
Il est marqué au Panthéon des Bleus.
Au Panthéon des Bleus, oui. L'équipe de France. Ouais. Hein, ouais. Pas tout cumulé, parce que sinon on va entendre, hey, il a pas gagné avec des champions et tout ça. Ouais. Ali sur WhatsApp me dit, il y a vraiment que en cas de victoire que Mbappé pourra passer devant Zidane, sinon il sera en dessous. Il faudrait qu'il gagne encore. Tiens, deux tracks. On voit carrément des statistiques. Hein, là, ça rend fou tout le monde entre Mbappé, Platini et Zidane. Il me dit, les valeurs surlignées sont des estimations, ce qui me montre. Néanmoins, il faut comparer les époques. Ceux qui ont vécu les années Platini ne le remplaceront jamais dans leur esprit, évidemment.
Mais oui, ton c'est débat, le cœur qui parle. Il est ultra subjectif, ce débat.
Ah oui, mais
parce que ça dépend des souvenirs que tu as avec cette équipe de France et qui était sur le terrain.
Mais tu dis oui quand même. Tu dis quand même que Mbappé est déjà
devant. Mais parce que je dis oui. Je dis oui parce que moi les années Platini, cette équipe qui est championne d'Europe en 84, c'est des choses qu'on m'a racontées, c'est pas des choses que j'ai vécues ou c'est des choses que j'ai lues. Alors que forcément Zidane, je l'ai vécu, donc je l'ai encore en émotion, comme ce que Mbappé me fait vivre depuis que je suis l'équipe de France. Donc il est ultra subjectif.
Ce sont pas les statistiques qui font ta place au Panthéon.
Non, ça peut pas. Pour moi, ça peut pas être les statistiques.
Les titres, quand même. Et puis après l'émotion. Pour le coup, l'émotion.
Oui, il y a l'émotion. Il y a les titres, mais tu peux pas juger que par les titres. Bah ouais, mais les titres aujourd'hui,
là, il est
champion du monde, Mbappé, et il est finaliste. Il est l'équivalent de Zizou. Il lui manque un ballon d'or. Mais si effectivement il gagne cette Coupe du Monde, il est forcément devant.
Tiens, Julien sur WhatsApp me dit en termes d'émotion pour lui, il est devant. Il a ses matchs références en plus. Que dire de son huitième de finale face à l'Argentine en 2018 et de nouveau en finale en 2022. Pascal, pour toi, pourquoi tu dis qu'il est déjà devant?
Bah parce que les trois critères, c'est bien sûr le critère sportif. Et celui-ci, il marque 0,62 buts par match, alors que Zidane n'en marquait que 0,29.
Il est meilleur buteur et meilleur passeur de l'histoire des Bleus, déjà.
Ben oui, bon, déjà, sportivement. Et ensuite, il y a l'incarnation. Aujourd'hui, il est capitaine. Mmh. Et l'incarnation du capitaine, elle est parfaite sur cette Coupe du Monde. Et Dieu sait si je fais partie de ceux qui ont souvent dit que Mbappé était insupportable. Mmh. Là, on doit reconnaître que c'est en fait tout ce qu'il fait, sa prise de position. Et là, encore une fois, si on veut comparer avec Zidane, qui était davantage taiseux, qui prenait peu souvent la parole, qui se mettait jamais en avant, donc, et qui a été capitaine, là, il est plutôt à ressembler à Platini, qui était plutôt frondeur, qui incarnait le capitanat et le leadership. Donc, il est en avance sur l'un et l'autre dans quelques domaines
pour
que ce soit.
Pour toi, c'est cette Coupe du Monde qui fait la différence. Il a dépassé pendant cette Coupe du Monde.
Oui.
Toi, Bennett, c'est pareil, c'est cette Coupe du Monde qui fait la différence. Oui.
Je rejoins Pascal sur toute la ligne. J'étais pas forcément un grand fan ou quoi que ce soit. De temps en temps, je trouvais qu'il était critiquable. Et sur cette Coupe du Monde, il prend une autre dimension. Sur cette Coupe du Monde, il a déjà marqué 8 buts en 6 matchs. Il est co-meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il est capitaine. Et
il est leader de l'équipe.
Il a une relation avec Deschamps, on en parlera à la fin de l'émission, mais qui a l'air incroyable. Et il y a des images qui trompent pas. Et quand j'ai vu l'échauffement, les images de l'échauffement avant le Maroc, il parle. Il est devant. Et t'as les autres qui sont derrière, qui sont avec lui. En fait, là, maintenant, l'équipe, elle est avec lui.
Ouais.
Pas forcément, mais là.
Pascal.
Ils sont avec lui.
L'image qui m'a scotché, c'est quand Dembélé marque 3 buts.
Oui.
Et il revient à égalité, à 4 buts. Comme Mbappé, ou à 3 buts comme Mbappé. Et là, je me dis, l'espace d'un instant, le match est encore, il y a encore du temps. Je me dis, pourvu qu'Mbappé marque, parce que l'ego va prendre le dessus. Mmh. Je me suis dit, il va vouloir montrer davantage. Or, il est resté collectif.
Comment il célèbre
les buts. Il est exemplaire.
Les buts de Dembélé ou de Barcola, tu sens que c'est sincère, en fait.
Bien sûr.
Et ce qui est différent par rapport aux autres années avec Platini et Zizou, c'est que on a du contenu où on peut vivre à l'intérieur de l'équipe, donc on se fait aussi une autre idée de ce qu'il incarne, de ce qu'il dit, de ce qu'il porte.
Non, puis surtout, alors là on parle de cette Coupe du Monde là, mais de manière générale, les stats, bon, il est champion du monde en 2018 avec un rôle décisif en 8e de finale contre l'Argentine. Il fait finale en 2022 en marquant 3 buts en finale. Là, il est de nouveau en demi-finale de la Coupe du Monde en étant décisif à chaque match. Platini à l'Euro 84, il était décisif à tous les matchs, meilleur buteur, etc. Mais il n'a pas gagné la Coupe du Monde, etc.
Zidane,
il marque en finale contre le Brésil, mais sa Coupe du Monde 98, il prend un rouge contre l'Arabie Saoudite, il ne joue pas contre le Paraguay, contre l'Italie, on ne le voit pas.
En 2006, il apparaît à partir des 8e de finale,
voilà.
Mais pas en phase de groupe. Et c'est vrai qu'à partir des 8e, c'est une symphonie.
Il perd en finale.
Oui. Mais Mbappé est un numéro 9 aussi. C'est ça la différence. Zidane et Platini étaient des meneurs de jeu, donc forcément dans les statistiques, moins impressionnant. Donc moi je suis génération Zidane, donc évidemment le cœur me fait dire Zidane, mais aujourd'hui les faits me sautent au visage et
c'est surtout
j'ai
là,
du mal à ne pas dire Mbappé.
Les 3-4 derniers matchs, il est incroyable.
Mbappé a dépassé les Platini et Zidane au Panthéon des Bleus. Vous êtes nombreux à le penser sur WhatsApp et nombreux à dire il faut quand même attendre qu'il y ait une nouvelle étoile. Le 15 de France à Brisbane en Australie, c'est le championnat des nations. La deuxième période, Clément Brossard.
52e minute, -1 pour l'équipe de France, 21-20. Nos joueurs de pied sont fantastiques au foot comme au rugby. Après le rasant de Ntamack en première période pour Grand Didier, cette fois c'est le coup de pied en cloche de Jalibert pour encore servir Aaron Grand Didier. Doublé pour le Palois, champion olympique. Joli baptême pour sa première sélection. La transformation de Lucu n'est pas passée alors que Staniforce vient d'entrer en jeu. 21 pour l'Australie, 20 pour l'équipe de France. On est en supériorité pendant 10 minutes, faut en profiter.
Allez, ça va être chaud jusqu'à la fin du match entre les Français et les Australiens. On va reparler des Bleus du foot dans un instant. Est-ce que Deschamps a déjà réussi sa dernière Coupe du Monde et dans le vestiaire? Est-ce qu'on arrive à faire la part des choses entre le sportif et les amis quand on est sur le terrain? Mbappé a bien réussi avec Hakimi. On revient dans un instant dans les grandes gueules du sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.